Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant une vingtaine de minutes. Cette semaine, nous vous présentons un média qui vient d'être lancé depuis Paris, Getty News. Sa particularité, c'est qu'il est porté par des journalistes réfugiés en France et des journalistes français qui travaillent en binôme. Leur ambition, porter un double regard sur l'actualité et parler de l'immigration autrement. Mais tout de suite, revenons sur le CES de Las Vegas.
RFI.
Du 8 au 12 janvier s'est tenu à Las Vegas le fameux CES pour Consumer Electronics Show, un immense salon dédié aux nouvelles technologies. Bonjour Thomas Bourdeau.
Bonjour.
Vous étiez en reportage à Las Vegas pour RFI. Alors pour ceux qui ne sont jamais allés au CES, pouvez-vous nous décrire à quoi ça ressemble ?
Alors c'est assez impressionnant, il y a le Strip de Las Vegas qui clignote dans tous les sens et à côté il y a le Convention Center. Alors c'est vraiment un endroit énorme. Truffé de stands où tous les fabricants s'installent pour, pendant 4 jours, présenter leurs nouveautés pour 2019.
Donc c'est des dizaines de milliers de mètres carrés sur lesquels on a des centaines, voire des milliers de stands.
Exactement. Il y a les fabricants officiels et puis il y a même dans les hôtels aussi les petites start-up en fait, qui présentent leurs idées technologiques. Il y a l'espace Eureka où étaient les Français, très nombreux, pour présenter... toutes leurs nouveautés technologiques, alors ça pouvait aller de la semelle connectée à la ruche connectée.
Et vous, en tant que journaliste, lorsque l'on arrive dans ce genre de situation, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Où donner du regard et où donner de la tête ?
Alors on marche beaucoup, on marche a priori 14-15 km par jour, on fait tous les stands, on essaye d'en faire le maximum, après il y a des journées, donc il y a les journées fabricants, puis les journées un peu start-up, et puis le regard on le donne... D'entrée de jeu, en fait, ce salon de cette année, c'était Google. En fait, ils étaient là tout de suite. Il y avait leur maison dès l'entrée et il y avait des représentants Google avec un bonnet, une combinaison blanche qui était un peu sur tous les stands. Parce que voilà, c'est les assistants vocaux. Il y avait Alexa il y a 2 ans et maintenant c'est Google qui veut prendre de la place.
C'est pas la première fois justement que vous alliez au CES de Las Vegas, la 3e, 4e année ?
Ça fait la 4e année.
Et qui est-ce qui était véritablement à l'honneur cette année ? Est-ce qu'il y a un thème chaque année ? Comment ça se passe ?
Cette année, c'était Google, mais c'est surtout la voiture connectée. C'est assez impressionnant. Ils ont vraiment pris beaucoup de place sur les stands. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est pas vraiment des châssis qu'on voit, c'est des intérieurs, c'est des habitacles. On voit des écrans, on voit une expérience utilisateur, en fait. On comprend comment on va conduire dans 10, 15 ans.
On conduit encore, justement, ou on ne conduit plus?
Alors, on conduit plus vraiment, c'est vrai. Mais en fait, on regarde quand même un écran, on regarde par les vitres, et puis on contrôle, on est contrôlé, parce qu'il y a des capteurs pour savoir dans quel état on est, si on n'est pas non plus trop endormi ou trop nerveux, mais aussi, tous les assistants pour GPS, reconnaissance vocale, des choses comme ça.
Donc on entre avec son smartphone dans la main dans sa voiture, le smartphone est relié avec la voiture.
Exactement, c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on arrive avec son smartphone, on le pose à côté du tableau de bord, s'il y a encore un tableau de bord, et en fait il capte toutes nos infos et on se retrouve chez nous, chez nous dans son téléphone.
Donc on s'allonge, on regarde un film en fait.
C'est presque ça, mais après... Après, on en arrive on voit les technologies qu'on ne voit pas de la voiture, c'est-à-dire des caméras qui communiquent dans les rues, qui surveillent exactement la circulation qu'il y a sur les voies pour sécuriser les automobiles. Et après, en fait, on arrive au smart city, en fait, c'est-à-dire que
justement, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné cette année en termes de smart cities, donc de villes intelligentes où tous les éléments se répondent dans le centre-ville?
C'est là où la preuve était flagrante cette année, c'est que ça fonctionne, en fait. Ils arrivent maintenant à faire fonctionner l'écosystème. Donc du coup, la ville avec la reconnaissance faciale avec les voitures, avec les caméras, peut avoir ça peut être un lieu complètement sécurisé, complètement autonome pour les voitures, complètement facile pour le citoyen. Et tout ça, c'est connecté. L'écosystème fonctionne.
Et pour les piétons, comment sont-ils pris en compte dans cette histoire ?
Pareil, les piétons, en fait, il y a la reconnaissance faciale, il y a pas mal de démonstrations où ils sont devant un passage piéton, et puis on voit s'il y a du monde, s'il n'y a pas du monde, même pour les handicapés. Le feu peut être un petit peu plus long s'il y a une personne handicapée qui a du mal à avancer.
La user experience, l'expérience utilisateur, semble être de plus en plus au cœur des projets. Est-ce que vous avez des exemples précis à nous donner ?
Alors, c'est ça qui est flagrant, en fait, maintenant, sur le salon. C'est ce que l'écosystème est solide. Et, en fait, les objets connectés sont devenus un peu plus attachants, un peu plus intelligents. C'est-à-dire qu'ils sont capables de nous comprendre. Et donc, quand on rentre chez soi, dans sa maison, on a le chauffage qui s'est déclenché un peu auparavant. On a un petit robot qui nous attend et qui est prêt à nous solliciter sur une playlist de musique qu'on préfère, en fonction de notre humeur aussi, en fonction de la journée qu'on a passée. Et puis après, le programme télé se déroule. Et voilà, c'est presque une conversation avec la maison et les robots qui sont dans la maison. Et les objets connectés sont devenus intelligents, c'est-à-dire que maintenant ils ne font pas que nous obéir, mais en même temps ils nous sollicitent et ils nous proposent des choses.
Dans les articles que vous avez écrits au cours du CES, vous parliez des objets connectés qui sont présentés en nombre et vous disiez, je vous cite, que tout est fait pour qu'ils soient attachants, protecteurs et rassurants. Ce sont vos mots. Ce sont des tendances lourdes, ça ?
Ben oui, parce que en fait, il y a 5 ans, la technologie était efficace, mais elle n'était pas jolie. Et là, maintenant, c'est beau et c'est des objets qu'on peut adopter en 2 heures très facilement et on va les garder. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'on s'y attache et qu'on ait des relations. Donc, il y a ce côté, encore une fois, conversation, presque intelligence artificielle avec cet objet, mais aussi en même temps comme un espèce de doudou électronique et qu'on ne lâchera plus maintenant.
Quelque chose vous a surpris aussi, c'est le fait qu'il n'y avait pas véritablement débat ou pas de sujet sur ce salon autour du contrôle des données, alors que c'est pourtant essentiel. On parle tout le temps des failles de sécurité, du fait que telle et telle entreprise privée en saurait de plus en plus et peut-être trop sur nous, et ce n'était pas vraiment dans les discussions, en tout cas celles auxquelles vous avez pu assister.
C'est un salon de fabricants, donc voilà, ils viennent présenter leurs produits. Et c'est ça le souci, c'est que quand je dis que l'écosystème il est solide et que tout fonctionne bien sûr les objets communiquent, mais ils communiquent avec qui ? Et qu'est-ce qu'ils récupèrent comme données ? C'est ça la problématique qu'on a en fond, qui concerne tout le monde. Et il n'y a pas de réponse sur ce salon. Il y avait quelques débats, mais pas tant que ça, puisque les fabricants, en fait, vont proposer des solutions. Ils vont être obligés d'être un petit peu transparents. Mais ça peut rester une problématique quand même pour ces nouvelles technologies qui captent tellement de choses que est-ce qu'on a envie de tout leur donner ?
L'objectif d'un salon comme celui-là, c'est de faire des plans sur la comète. Ce n'est pas forcément de s'intéresser au quotidien actuel, mais plutôt d'essayer de se projeter. C'est bien cela ?
Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que les fabricants, ils présentent des produits qu'ils vont mettre sur le marché au courant de l'année, mais aussi ils se rencontrent entre eux. Et donc, ils voient en fait les technologies qui sont bonnes dans telle marque. Et en fait, ils font aussi des plans sur la comète, c'est-à-dire qu'ils sont en train de solidifier des avancées technologiques qu'ils ont chacun de leur côté. Et en fait, ils voient chez un tel où ils vont aller par là, ben nous on va aussi, on va puiser par là. Et en fait, le salon, il vit aussi dans les hôtels de Las Vegas où il y a énormément de rencontres entre directeurs de...
Formels ou informels d'ailleurs.
Informels, personne n'est au courant. Là, moi je n'y assiste pas.
Mais est-ce que vous avez assisté à des petits moments justement cocasses ou intéressants entre deux entreprises ou entre un géant du web qui prend contact avec une jeune pousse ?
Alors, je sais que Google a reçu les fabricants, enfin les représentants de voitures, et il y a toujours des discussions entre eux parce que la voiture autonome c'est quand même un grand débat, et il y a aussi une grosse différence entre l'industrie automobile européenne très classique et Google et Tesla qui veulent révolutionner le marché, mais qui sont pas forcément des vrais industriels. Donc ils se rencontrent.
Et ça se passe aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains, mais aussi vous avez remarqué énormément de Chinois.
Alors ça, les Chinois, oui, ils arrivent depuis les 5 dernières années. Ils étaient vraiment en fond du salon au début. C'était vraiment les fournisseurs de pièces détachées. Et puis là, maintenant, c'est devenu les marques et c'est eux qui sont capables de produire. Ils se passent de tout le monde. Donc, mais il y avait aussi la Corée. Et une forte représentation russe, aussi ukrainienne.
Donc c'est aussi intéressant de se rendre compte que malgré une guerre commerciale actuelle entre les États-Unis et la Chine, eh bien ils se retrouvent, et les fabricants se retrouvent et continuent à travailler ou à collaborer ou à discuter et être compétitifs ensemble. Ces futurs possibles que vous avez vus à Las Vegas, vous ont-ils véritablement donné envie ? Ou est-ce qu'après une bonne semaine de salon, ce débordement de technologie est au final assez épuisant et on est content de rentrer chez soi, dans une maison non connectée ?
Alors, on est content de rentrer chez soi, dans une maison un petit peu connectée. Mais non, c'est vraiment un salon très, très intéressant. À chaque fois, quand on y arrive, je me dis que bon, je vais être gavé et puis il n'y aura rien de surprenant. Et puis, systématiquement, on est vraiment surpris. Bah, l'espace Eureka, où il y avait les Français, il y avait vraiment de très très bonnes idées, des idées aussi dont on n'a pas parlé, mais là, une technologie un peu douce aussi, qui fait attention à notre psychologie et qui fait attention à notre bien-être. Et il y a plein de tendances comme ça, très lourdes et très solides, qui, moi, je trouve très enthousiasmantes.
Et on invite ceux qui nous écoutent à lire vos articles consacrés au CES. On les trouve dans la rubrique tech de RFI.fr.
Merci beaucoup.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Avant de poursuivre cette émission, une étude a attiré notre attention cette semaine. Elle montre que les Français ont de moins en moins confiance dans les médias. Selon le baromètre Lacroix-Kantar, seul un Français sur deux estime que les radios racontent les choses telles qu'elles se passent réellement. Mais c'est encore pire pour d'autres supports d'information. Seuls 44% des sondés jugent la presse écrite crédible, et pour la télévision, ce chiffre chute à 38%. Le traitement médiatique du mouvement dit des Gilets jaunes n'est pas étranger à ce décrochage de plusieurs points par rapport à 2017. La bonne nouvelle, c'est que les Français sont tout de même 67% à suivre avec intérêt l'actualité racontée par les médias. Les chiffres donnent également des pistes d'amélioration, en tête des sujets dont on n'a pas assez parlé, le climat. Et à ce propos, on vous invite à réécouter notre émission du 1er décembre sur comment informer sur l'urgence climatique.
Donc l'enjeu, c'est vraiment d'avoir des choix rédactionnels très forts et qui tiennent à l'indépendance pour dire on va parler de choses qui ne plairont peut-être pas aux puissances d'argent, il faut le dire très clairement, donc à l'écologie, à l'inégalité, au social, aux questions du Sud, aux questions du tiers-monde, aux questions d'immigration. Et donc pour ça, c'est d'abord, est-ce que les collectifs, les journalistes arrivent à se grouper ensemble pour assurer l'indépendance de leurs médias, qui leur permettra ensuite, en tant que journalistes, de développer leur passion et leur talent sur les sujets essentiels, qui sont ceux, à mon sens, que j'ai cités.
L'Atelier des médias.
Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là ce soir pour donc la soirée de lancement de Kitty News. Donc, on est très fiers et très heureux de vous annoncer que le site www.kittynews.fr est en ligne depuis ce soir, depuis 18h.
Comme je vous le disais tout à l'heure, on va vous présenter un nouveau média appelé Getty News. Camille Sarrazin a assisté mardi soir à son lancement.
Alors Getty News, ça signifie Getty de Noom, ça signifie en perse le monde et l'univers. Et c'est la traduction littérale de Getty en perse.
Je m'appelle Mortaza Bebouddi, journaliste réfugié afghan en France depuis 3 ans. Ce soir, on a présenté le premier média franco-réfugié et qu'en fait, l'idée, c'est de vraiment de rassembler des journalistes réfugiés, des jeunes journalistes français ensemble, de porter un double regard sur l'actualité en France en binôme, un journaliste réfugié, un journaliste français, pour faire des reportages ensemble.
Et donc, tu disais aussi que c'est parce que les journalistes réfugiés ont du mal à trouver du travail quand ils arrivent
bien
en France.
Bien sûr, oui. Un exemple, moi-même, parce qu'en fait, j'ai du mal à trouver un travail dans les médias français. Je pouvais faire des piges, mais pas trouver un travail stable. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'est dommage qu'en fait, 80% des journalistes réfugiés qui arrivent en France, ils ont mal à trouver un travail. Et quand ils changent leur métier, ils font d'autres choses. Même problématique, de l'autre côté, je voyais qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes français qui sortent de l'école de journalisme. Ils ont mal à même trouver un stage dans les médias. Donc, à ce moment-là que je me suis dit, en fait, il faut faire quelque chose. Quoi. Donc là, aujourd'hui, ce soir, après 9 mois, on présente Getty. Notre site est déjà en ligne avec le premier reportage, gettynews.fr.com. Venez voir le site internet. Vous allez voir un autre regard sur l'actualité. Et déjà aussi qu'en fait, on ne veut pas faire comme d'autres médias. D'autres médias généraux, quand ils font d'autres. Nous, on veut parler d'autres choses que la crise, les conflits, les gilets jaunes, affaire Ben Ala. Nous, on veut parler de l'humanité.
Bonsoir, je m'appelle Gaspard, je suis auteur de bande dessinée, je suis Camerounais et j'ai vécu à Rome. Maintenant, depuis quelques années, je vis à Paris où je travaille comme auteur de bande dessinée. Ma spécialité, ce sont les romans graphiques. Et moi aussi, en tant que migrant, parce que je suis d'origine camerounaise, mais certaines situations m'ont poussé à laisser mon pays d'origine et j'ai choisi de vivre en Occident aujourd'hui. J'ai un regard sur l'immigration, un regard différent, qui ne sont pas toujours se raconter dans les médias principaux. Donc, ce qui m'a attiré dans cette équipe, c'est cette sensibilité, et ce qui va caractériser mon travail, c'est vraiment de regarder l'immigration, mais avec une autre sensibilité, surtout d'une personne, parce que j'ai l'impression qu'on parle d'immigration, mais la plupart du temps, on ne donne pas la parole aux migrants eux-mêmes. On ne donne pas la parole à ceux qui vont sur le terrain. Moi, quand j'ai réalisé Un voyage sans retour, c'était parce que les gens autour de moi, j'étais en Italie, les gens répétaient de manière comme des formules mathématiques, comme des formules ce qui leur avait été dit à la télévision. Les gens, par rapport à ce que, par exemple, on leur disait que, bon, voilà, ils n'ont pas de boulot parce qu'il y a des migrants qui arrivent. Et du coup, des gens croient à ce genre de choses. C'est ce qui m'a poussé aussi, moi, dans mon travail, à vouloir raconter un autre regard de l'immigration pour dire que, bon, voilà, l'immigration, c'est autre chose, ça a toujours existé. Que ce qu'on vit aujourd'hui en Europe, c'est plus un psychodrame européen qu'un problème lié aux migrations. Alors, je ne vais pas être prétentieux, je ne vais pas dire qu'avec Gucci News, on va changer le monde, mais du moins, c'est ce qu'on s'est dit. Ce qui est bien à Gucci News, c'est l'énergie. Et se dit, bon, à un moment donné, on a l'impression qu'on s'est tous dit de manière unanime que ça vaut la peine de vivre comme ça en se battant. En se battant, mais bon, il y a peut-être des causes plus nobles que ça, mais je ne trouve pas que celle-ci l'est moins. Donc, ça vaut la peine d'être le monde vécu comme ça.
La scène se déroule pendant l'été, en 2016. Sarah Farid, journaliste pakistanaise, est dans le sud de la France avec des amis. Elle est de passage pour les vacances et ne sait pas encore que dans un an, elle sera de retour en France pour demander l'asile. Il fait chaud, tout le monde est dans la piscine. Sarah, qui a grandi dans un pays où le harcèlement de rue est monnaie courante et qui a été agressée plus de fois qu'on ne peut compter, n'a pas envie de se déshabiller. Elle a 36 ans et n'a jamais porté de maillot de bain. Au Pakistan, pays très conservateur, cela ne se fait pas. Ce n'est pas une question de religion, Sarah est non pratiquante, elle est simplement mal à l'aise. Là, en l'occurrence, elle n'a aucune envie de dévoiler ce corps qu'elle n'a pas appris à aimer devant des inconnus. Elle monte alors à l'étage, prétextant une migraine.
Trouver un modèle économique viable, c'est une préoccupation majeure des médias qui se lancent. Sophia Fischer est journaliste indépendante et rédactrice en chef de Getty News.
Alors idéalement, on aimerait être 100% indépendant et donc fonctionner sur un système d'abonnement. Le souci, c'est qu'on est très réaliste sur le fait que l'abonnement dépend d'une communauté. Donc il faut aussi qu'on crée une communauté avant de pouvoir se créer une base de données, un public en fait, qui serait prêt à payer un abonnement. On avait commencé à parler d'un abonnement à 7€ par mois, voire 9€ par mois, sachant qu'on n'est pas du tout un média exhaustif, donc on ne va pas venir sur Getty News, sur le site de Getty News pour s'informer sur tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur certains sujets et de les traiter dans le fond. On ne va pas traiter de tout, on va traiter vraiment de ce dont les journalistes ont envie de parler. On discute beaucoup en conférence de rédaction de ce dont tout le monde a envie de parler. Il s'avère que là, on traite beaucoup des sujets migratoires parce que c'est évidemment les sujets qui reviennent très souvent sur la table au moment des conférences de rédaction. On va parler notamment du burkini, par exemple, du débat sur le burkini. On va demander à des femmes afghanes et iraniennes de nous parler de la première fois où elles ont porté un maillot de bain, comment ça s'est passé pour elles. On a des sujets sur l'homosexualité, être réfugié et homosexuel aujourd'hui à Paris, comment ça se passe. On a une série de portraits, par exemple, de plusieurs réfugiés qui viennent de différents pays, qui ont posé pour nous avec un objet qui représente selon eux leur exil. Le fait d'avoir ces deux regards va nous éviter de porter un regard trop continental et trop français sur ces sujets. Je me rends compte, en fait, qu'en débattant avec la personne avec qui je suis en binôme, donc ça dépend en fonction des sujets, personnellement, qu'il y a plein de problématiques auxquelles j'avais jamais pensé, notamment, par exemple, pour le burkini. Donc je suis en train de m'occuper de ce sujet-là avec Sarah Farid, qui est une journaliste pakistanaise, qui travaille notamment pour le New York Times, qui a évoqué énormément de pistes auxquelles j'avais jamais pensé, malgré le fait que le débat burkini a plusieurs années aujourd'hui. Mais elle a apporté vraiment des pistes de compréhension culturelle que je n'avais jamais envisagées avant, en fait.
Giti News, un média franco-réfugié pour raconter l'exil autrement. C'est un reportage de Camille Sarrazin. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les premiers contenus de Giti sur le site gitinews.fr. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure d'un mondoblog audio particulier qui nous emmène cette semaine en Belgique, où le blogueur belge Tanguy Ouera s'apprête à accueillir un migrant dans son foyer.
Nous venons d'emménager dans notre nouveau foyer. On y est bien. Il y fait chaud alors que dehors l'hiver s'installe. L'ennui, c'est la place. Honnêtement, on en a trop. D'ici quelques jours, on offrira un lit qui ne servait à personne à quelqu'un qui n'en avait pas. C'est tout. Face à la haine et à l'exclusion, à l'heure où ouvrir ses portes est devenu un crime, nous serons criminels. Question de valeur, de conviction. N'y voyez aucune forme d'héroïsme, de générosité. C'est juste une question de bon sens. N'en déplaise à certains, celui qui débarquera chez nous sera le bienvenu. Un gars qu'on n'a jamais rencontré mais qu'on apprendra à connaître. On s'entendra bien, même si nos cultures sont différentes. On n'aura pas grandi au même endroit, vécu les mêmes expériences, mais on pourra s'entendre. On peut forcément s'entendre. Il lui faudra du temps pour apprendre notre langue. Nous prendrons ce temps. On ne laissera personne lui dire qu'il n'a qu'à vite apprendre le français et que s'il tarde, c'est qu'il ne veut pas s'intégrer ou qu'il n'y met pas du sien. Ce gars vivra peut-être au crochet de la société pendant quelques années. Et alors, mon épouse et moi, on préfère se savoir dans une société solidaire qui donne à chacun la possibilité de se construire un avenir, quitte à ce que ça nous coûte un peu plus cher, que dans une société qui criminalise ce qui ne crée pas de la richesse. On n'est pas venu sur Terre pour enrichir des actionnaires et remplir des comptes offshore. La seule richesse qui compte, c'est celle non bancable des rapports humains. N'allez pas croire qu'on cherche à jouer les Bonnie and Clyde de la solidarité. On fera tout pour le régulariser, lui obtenir des papiers en règle, qu'il puisse marcher dans la rue sans craindre une rafle, puis un aller-retour pour aller Dieu sait où. Notre gars, au fond, je crois qu'il n'a pas choisi la Belgique par volonté. Non, comme souvent, c'est le hasard du regroupement familial qui l'a amené ici. Un destin parmi tant d'autres. Un gars qu'on n'a jamais rencontré, mais qu'on apprendra à connaître.
Pour saisir la subtilité du propos de Tanguy Ouera, rendez-vous sur son blog Autrement dit et sur mondoblog.org pour réécouter tous les mondoblogs audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin, Camille Deloche et Léo Caravagna, à la réalisation Simon De Creuse, au micro Steven Jambeau. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.